Nous allons faire deux lectures. La première dans 1 Chronique au chapitre 6. Comme je vous le dis souvent, je vous encourage à peut-être noter pour vos cultes personnels, justement. C'est 2 Chroniques, chapitre 6. Versets 29 et 30. C'est une prière que Salomon a faite. Il était conscient que certaines choses pouvaient arriver. Et regardez la prière qu'il fait. Dans cette grande prière, il dit ceci. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 29. Si un homme, si tout ton peuple, d'Israël, fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie, sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Est-ce qu'on peut le relire, s'il vous plaît ? Si un homme fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende ses mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul, tu connais le cœur des enfants des hommes. Amen. Nous allons faire une autre lecture dans le livre du Lévitique. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 14, du verset 33 au verset 48. Lévitique, chapitre 14, verset 33. Tout à l'heure, peut-être que quelqu'un aura envie de demander de l'aide. Eh bien, on priera simplement. Je sais que ce que je vais partager ce matin, ça ne peut pas se régler pendant un culte. Je le sais. Je le sais. C'est pour ça que je vous demande vraiment d'être attentif, parce que c'est certainement, pour ceux qui seront concernés, l'occasion de dire, eh bien, cette semaine, je vais y travailler. Parce que je suis persuadé qu'il faut plusieurs jours. Il faut plusieurs jours. Lévitique 14, 33. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsque vous serez rentrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre dans une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison, et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières. Et l'on prendra un autre mortier pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres raclées et recrépri la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur, qui est retourné dans la maison, voit que la plaie ne s'est pas étendue, Après que la maison a été récrépie, il déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Amen. C'est un texte un petit peu étonnant, mais il faut comprendre certaines choses, frères et sœurs. Ce que je vais vous dire, je pense vraiment, je le redis, que si certains sont concernés par cette prédication, cela prendra plusieurs jours. C'est très sérieux. Vous savez, pour agir dans le monde, Dieu utilise son Église avec un E majuscule. Pour cela, il faut que les chrétiens qui composent l'Église soient à l'écoute. Mes frères et sœurs, ça passe par l'écoute. L'Église ne peut être véritablement l'Église du Seigneur Jésus que si les chrétiens qui la composent sont vraiment à l'écoute et les oreilles de leur cœur bien ouvertes. Vous savez combien de fois Jésus a dit « Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ça ». Ça fait mal au cœur de le voir tellement de fois. Cette écoute doit provoquer une obéissance joyeuse, pas une obéissance légaliste. Le légalisme a détruit le corps de Christ, ou le laxisme qui a mené l'apostasie a détruit le corps de Christ. Et bien des scandales sont le résultat de ces deux comportements. Nous nous sommes là devant Dieu, avec beaucoup de respect, je l'espère, en demandant à Dieu des oreilles spirituelles. « Seigneur, je veux entendre, je voudrais que cette voix du ciel provoque une obéissance joyeuse et fasse de moi un véritable disciple et un véritable vainqueur. » C'est ce que Dieu veut. Et nous, déjà, nous pouvons nous poser la question, est-ce que je désire être ce vainqueur qui glorifiera ton nom, pas être un vainqueur pour être au-dessus des autres, un vainqueur qui glorifie ton nom? Est-ce que je veux être un véritable disciple, ou est-ce que je suis un chrétien de nom, évangélique ou pentecôtiste? Il y a des gens, ils se gargarisent d'être dans telle ou telle dénomination, ça, franchement, ça fait pitié. Un chrétien qui n'obéit pas au Seigneur Jésus ne devrait pas chanter, si, quoique notre Dieu règne encore, ça ne le concerne pas. Mais règne à moi, si vous chantez règne à moi, vous connaissez ce petit cœur, ça c'est peut-être pas la peine de le chanter. Un chrétien qui n'obéit pas est un chrétien qui n'est pas utile à Dieu. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Un chrétien qui n'obéit pas, je ne parle pas d'une obéissance légaliste, je parle d'une obéissance de cœur, comme Paul en parle aux Romains. Ce qu'on le fait, on le fait de tout son cœur. Je me rappelle quand je me suis converti, on avait parlé du mensonge avec un gars, mais tu peux pas mentir. J'ai dit, si, je peux, mais je ne veux pas mentir. Et il avait compris, ce garçon d'ailleurs s'est converti, ce garçon avait compris que entre les commandements de Dieu et puis la joie d'obéir à des commandements qui sont, comme je le disais dimanche dernier, plus des invitations que des commandements. Un chrétien qui n'obéit pas s'entendra dire un jour, retire-toi de moi. C'est pas moi qui le dis. Tout ce que je vous dis, écoutez-moi, c'est biblique. Un chrétien qui n'obéit pas s'entendra dire un jour, retire-toi de moi. Alors que toute sa vie, ça fait peine. Il aura entendu dans des moments comme celui-ci, venez à moi, demeurez en moi. C'est magnifique d'entendre toute sa vie, oui ou non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous rendez compte, toute la vie. Dieu ne se lasse pas, sa patience est notre salut. Toute sa vie, toute la vie, Dieu nous invite. Ça fait mal au cœur de savoir qu'il y a des gens qui ont entendu des centaines de fois « Venez à moi, demeurez à moi » et qui s'entendront dire « Retirez-vous de moi ». Peut-être que ça vient des pasteurs aussi qui traitent à la légère. Il y a un verset qui est venu sur mon cœur quand je préparais cette prédication, c'est dans Jérémie au chapitre 6, où il est dit « Mais il pense à la légère, puisqu'on parle de plaie de lèpre, il pense à la légère la plaie de mon peuple ». Et il se peut que dans des églises, on aborde très rarement les plaies de la maison, les pierres qui sont affectées. On va le voir, bien sûr. Dans l'église de la Odyssée, nous voyons que le Seigneur est à la porte et il demande si tu entends ma voix. Mais hier, cette semaine, en priant, très sincèrement, j'ai revu ce texte que je connais par cœur. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît un texte par cœur qu'on a la pensée de Dieu par rapport à ce texte. Et je me suis posé vraiment la question hier, oui, le Seigneur frappe dans cette église, où on a réussi à le mettre dehors, c'est extraordinaire. Mais je me demande si on peut entendre sa voix, parce que Jésus dit « si quelqu'un entend ma voix », si au préalable on n'a pas écouté ou mis en pratique les 5 conseils qui précèdent. Vous savez, dans cette église, Jésus dit « je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne se voit pas, du collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, et donc du zèle, et repens-toi ». Parfois même la repentance doit être conjuguée avec un véritable zèle. C'est pour ça que je sais très bien que si certaines bénédictions peuvent venir dans le cadre d'une réunion, il faut quelques secondes, mais il y a, je crois, comme on le voit dans ce texte, il faut parfois du temps pour arriver à la repentance. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, où nous en sommes. De cette écoute, si quelqu'un entend ma voix, vous allez me dire, mais moi j'entends très bien, monsieur Gauger. J'ai fait faire un test dernièrement par un docteur, mon ouïe va bien. Je ne vous parle pas, bien sûr, de l'ouïe physique. Je vous parle de vos oreilles spirituelles. Ce texte que Dieu a voulu dans le Lévitique, ce texte nous parle de la maison, des lèpres de maison, la lèpre des maisons. Alors on pourrait dire, tiens, c'est un texte bizarre. Mais enfin, c'est un texte qui est dans les Écritures, donc c'est un texte dont on a besoin. Comme vous le savez, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Nous sommes individuellement la maison du Seigneur, chacun. L'Église est le corps de Christ. Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Lorsque les chrétiens se rassemblent, c'est la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Enfin, il y a plusieurs noms qui l'expliquent. Ce texte, on pourrait partir du verset pour revenir, pour nous aider. Lorsqu'au verset 34, il est dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, ça veut dire ceux qui ont accepté le salut, pour nous dans le Nouveau Testament. Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, donc c'est un texte qui s'adresse aux chrétiens. Ce texte nous enseigne qu'une plaie peut toucher l'intérieur de notre maison. La lèpre, vous savez, c'est champignons, c'est moisissures. Alors on va voir, ça peut être rien comme ça peut être grave. Ça peut être juste de taches d'humidité, comme on l'a déjà vérifié dans nos maisons, ou ça peut être, comme on le voit dans ce texte, beaucoup plus grave. Au verset 40, il nous est parlé de pierres qui sont attaquées. Il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées. Les pierres attaquées, vous le comprenez bien, nous parlent de tous ces combats que l'on a, de toutes ces difficultés, de ces luttes. Est-ce que vous en avez de temps en temps des luttes, des combats? Voilà. Donc, c'est normal. Mais justement, ma responsabilité à moi, c'est de nous aider, de faire en sorte que je fasse attention à ce qui est rien et ce qui est grave. Il y a des chrétiens qui dramatisent tout, il y a des chrétiens qui minimisent tout, et c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des chrétiens, des fois, ils ont juste un petit bobo, ça y est, le docteur m'a dit que j'avais un truc, j'ai le cancer, je vais mourir. Bon. Il y a des chrétiens qui dramatisent, il y a des chrétiens, par contre, ils fuient, et ils ne voient pas que quelque chose est grave, alors que ça l'est. Donc, c'est pour vous expliquer qu'il faut qu'on prenne du temps. Ce texte nous parle de certains symptômes qu'il ne faut pas ignorer. J'aperçois, verset 35, celui à qui appartient la maison dit « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » C'est peut-être pas grave, mais c'est peut-être grave. Il peut y avoir dans notre cœur des plaies que seul le sacrificateur, le grand sacrificateur peut voir. On l'a lu dans les chroniques, « Seul tu connais le cœur des hommes. » Nous on peut jouer la comédie tant qu'on veut. Vous le savez, même on peut jouer la comédie à son épouse, à ses enfants. Il y a des comédiens, des très bons comédiens. Et il ne faut pas attendre, mes frères et sœurs, parce que ça quand même, nous en sommes hélas peinés lorsque nous voyons des maisons qui s'écroulent, spirituellement bien sûr. Oui ou non? Vous avez jamais vu des maisons s'écrouler chez les chrétiens? Des chrétiens s'écrouler spirituellement? Donc, je vous les revoyais, la maison elle est par terre. Je parle de la maison spirituelle bien sûr. Il y avait un problème, on n'en a pas parlé, on l'a caché, mais un jour la maison s'est écroulée. Et souvent, ça nous fait de la peine, mais enfin, en plus, ça, la démarche, vous le voyez, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, la démarche doit venir de la personne propriétaire de la maison. C'est la personne qui fait la démarche vers le sacrificateur. Et souvent, on nous reproche, je ne sais pas si les gens ont raison, on nous reproche de ne pas avoir aidé certaines personnes, mais qui ne nous ont pas demandé de l'aide. Ça, c'est un autre problème. Mais parfois, quand les gens nous appellent, la maison, elle est par terre. Ça, c'est un autre problème. Mais dès que l'on commence, mes frères et sœurs, à s'apercevoir, puisque je reprends le mot, hein, j'aperçois, si on commence à s'apercevoir de certaines choses dans la maison de notre cœur, je crois qu'on devrait quand même être sérieux et s'en préoccuper. J'ai marqué quelques comportements. L'irritation pour rien. Alors on peut s'irriter pour une bricole. Vous n'avez pas mis le linge sale dans la corbeille, votre femme s'irrite. Est-ce que c'est un problème? Non mais écoutez, ma femme elle s'est irritée parce que les chaussettes roulées par terre, ça ne lui plaît pas. Je parle pas de moi je suis un homme super organisé et tout. Mais est-ce que c'est grave ça? Bien sûr que non. C'est pas grave. Mais il peut y avoir de l'irritation pour rien qui révèle quelque chose. Et c'est valable pour tout ce qui va suivre. La colère injustifiée. Il y a des gens qui se mettent en colère régulièrement, chroniquement, pour rien. L'humeur instable, l'agressivité, l'angoisse sans cause apparente, la peur, la pensée du suicide. Est-ce que ça peut arriver, la pensée du suicide? Est-ce que ça peut être une tentation, le suicide? Mais oui. Mais quand ça commence à devenir plus une obsession qu'une tentation, là, vous comprenez, mes frères et sœurs? L'entêtement, l'amertume, le refus de prier. Le refus de prier, est-ce que ce n'est pas révélateur? La distance prise avec l'Église, je m'éloigne de plus en plus de l'Église, est-ce que ce n'est pas un symptôme? Moi je pense, mes frères et sœurs, et surtout vous qui m'écoutez, qui n'avez plus de vie d'Église, je vous demande de vous approcher de la porte et de demander au souverain sacrificateur qui vous parle. Il y a plein de comportements qui devraient attirer notre attention dans le cadre de la vie personnelle, mais après au niveau du couple. Il n'y a pas que la vie, ce n'est pas que la vie personnelle. Si vous êtes marié, il y a des comportements qui devraient peut-être nous faire réagir. J'aperçois une plaie. On se dispute tout le temps avec mon épouse, pour rien. Est-ce que ça peut arriver, un accrochage? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien écouter Dieu. Un petit accrochage pour une bricole, c'est pas grave ça. Ne jouons pas les méga spirituels, c'est ridicule. Mais il peut y avoir des disputes, il peut y avoir plus de dialogue. Est-ce que c'est important dans le couple de dialoguer? Moi je crois que oui. Plus de joie, rentrer au foyer, ça. J'aime pas rentrer à la maison. J'ai envie de fuir la maison, ça m'énerve de rentrer. Des pensées de divorce, d'envisager l'adultère. Vous allez me dire, mais monsieur Gou, non mais vous rêvez là. Un chrétien, en arriver là. Vous croyez que je rêve? Ces choses-là, elles peuvent arriver. Alors je le répète pour que vous compreniez bien. Cela peut être que de simples tentations ou de simples peccadilles. Comme cela peut représenter véritablement une plaie. Quelque chose qui s'installe. Bien sûr que la maison n'est pas par terre parce que je me suis irrité, parce que je n'ai pas dialogué avec ma femme pendant 3 ou 4 jours, parce qu'on s'est fâché, bon, on n'a pas parlé pendant 3 jours. C'est pas alarmant non plus. Mais Dieu nous a laissé sa parole. Et moi, je n'ai pas envie que Dieu me dise un jour, tu fais partie de ces sacrificateurs qui pensent à la légère la plaie des chrétiens. J'ai pas envie de faire partie de cette liste, je vous le dis. Quand Dieu nous demande de nous en occuper au début, il faut le faire. Si Dieu nous amène par sa parole divine, cette parole, n'oublions pas, qui sort de sa bouche. Si Dieu a voulu ce texte, on en a besoin. Je sais qu'il y a des textes dans le Lévitique ou ailleurs qui sont compliqués. Notre frère Jonathan Guyot rappelait ce matin la souffrance de Jérémie. C'est un livre qui est difficile à lire. parce que vous voyez vraiment la douleur de Dieu, mais vous le comprenez. À cause de la légèreté de son peuple, il n'y a pas cette possibilité à Dieu d'utiliser son peuple. Dans l'Ancien Testament, le peuple hébreu et aujourd'hui l'Église, parce qu'il n'y a pas cette guérison. Vous rappelez que Jésus a dit à un homme qui était malade depuis 38 ans, paralysé depuis 38 ans, « Veux-tu être guéri ?» Mais mes frères et sœurs, ça fait combien de temps que tu es malade ? C'est peut-être pas une paralysie physique, bien sûr, ça c'est grave. C'est peut-être une paralysie spirituelle, je suis paralysé, je ne fais plus rien. Je m'en rends compte ou je ne m'en rends pas compte. C'est vrai que Dieu pourra me parler, je le crois, si au préalable j'ai écouté les 5 conseils dans l'église de Laodicée. Je le crois vraiment. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas à une réunion que le problème se règle. Au niveau du personnel, au niveau du couple, quand même le couple c'est une bénédiction, oui ou non? Il y en a un qui a dit amen. Je pense qu'il n'y a qu'un frère qui est marié dans l'église. Mais est-ce que franchement ce n'est pas une bénédiction d'avoir un conjoint? Je lui ferai une aide. C'est une bénédiction le mariage. Et quand je vois certains chrétiens comment ils vivent le mariage, alors moi je ne suis pas là pour juger, mais je pense qu'on est passé à côté de certaines choses. Beaucoup de chrétiens sont passés à côté de certaines choses. Si Dieu nous demande de nous en occuper, il faut s'en occuper. C'est de notre responsabilité. Les gens souvent sont là, bénis-moi Seigneur, bénis-moi, je vais à l'imposition des mains par la foi. Mais ça ne sert à rien pour certaines choses. Il y a des choses qui ont à voir avec notre responsabilité. Qu'est-ce que Dieu me demande par rapport à ma maison, le temple du Saint-Esprit que Dieu m'a fait? Parce que Dieu nous a créé, il nous a donné la vie. Au niveau de l'Église, tiens donc, au niveau de l'Église, est-ce qu'il n'y a pas des petits symptômes qui peuvent démontrer qu'il y a des débuts de plaie? Lorsqu'un chrétien est tout le temps en train de murmurer, de critiquer, de contester, est-ce que ce n'est pas un début de plaie? Il y a des choses qui sont peut-être bonnes. Moi, je sais qu'il y a des chrétiens qui m'ont eu fait des remarques. Ça paraissait négatif, mais c'était archi intelligent. Ça m'a permis de me remettre en question. Il y a des chrétiens, des fois, bon, ils n'ont pas toujours le tact, comme moi, pour parler. On n'a pas toujours le tact, mais ça fait quand même réfléchir. Il y a des problèmes qui n'en sont pas. Il y a des réflexions qui ne sont pas méchantes. Mais il y en a qui le sont. Il y a des gens qui sont vraiment rebelles. Par exemple, dans une église, lorsque je n'ai plus envie de prier, que la maison du Seigneur soit une maison de prière, est-ce que c'est important pour vous que l'église soit une maison de prière? Moi, je crois que oui. Les rivalités, est-ce que la Bible parle des rivalités, des jalousies? Est-ce que ça peut arriver dans une église? Je suis jaloux, ça fait 3 mois que moi, on ne m'a rien demandé, à lui, on lui demande toujours. Ça peut arriver, et Dieu le permet, ça, c'est des choses que Dieu peut permettre. La paresse dans le service, l'illusion, tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre. Ce sont des symptômes qui devraient nous alarmer, on devrait y être sérieux. Seigneur, je te demande de me parler. Vous êtes sérieux quand vous chantez « Si je me tais, ou j'apprendrai à écouter la voix du bon berger ». Vous le chantez comment ce petit cœur? Vous le chantez consciencieusement? Bon, on est sérieux, on est là. Je suppose que tous ceux qui sont venus ce matin dans ce lieu veulent faire des progrès, oui ou non? Vous voulez faire des progrès? On veut faire des progrès. On est là, on n'est pas là pour se traumatiser, on est là pour dire « Seigneur, parle-moi ». S'il y a dans ma maison une pierre qui est pas dans l'humidité, mais qui est peut-être en train d'abîmer toute la maison, eh bien, montre-moi-le, et je vous assure, il nous le montrera. C'est beau quand dans une église, le serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes, les diacres, les diaconesses, nous veillons les uns sur les autres justement pour observer s'il n'y a pas des pierres qui peuvent abîmer l'ensemble de l'édifice. Nous sommes dans l'apostasie, les églises aujourd'hui sont dans l'apostasie, et on utilise des versets comme l'amour excuse tout, l'amour couvre tout, et voilà, mais ça suffit pour balayer tout et penser à la légère les plaies. Mais l'amour couvre tout, c'est sûr, mais en tous les cas, l'amour ne couvre pas le péché, surtout quand ça détruit la maison. Croyez-moi, le péché qui ronge les pierres, je ne pense pas qu'il faut le couvrir. Nous devons être sérieux, joyeux. Ce matin, vous êtes sérieux ou joyeux? Les deux, c'est très bien. Nous devons être sérieux parce que si certains chrétiens, si certaines familles chrétiennes, si certaines églises se sont écroulées, c'est parce qu'elles n'ont pas pris au sérieux ce qu'on est en train de voir ce matin. N'oublions pas que nous avons un Dieu puissant qui guérit. Veux-tu être guéri? Je ne sais pas si vous croyez que Dieu a le pouvoir de guérir. Vous le croyez toujours? Que Dieu a le pouvoir de bénir n'importe quelle maison? Je ne sais pas comment elle sera, la maison que le Seigneur vous prépare dans le ciel. Je ne sais pas comment ça sera, mais je pense que ce que Dieu vous prépare, ça doit être bien, très bien. Alors, quelle est la démarche? Je suis là, devant toi. J'ai prié cette semaine, Seigneur, inspire notre pasteur, qu'il ait une exhortation qui m'aide à grandir, parce qu'il faut que je croie, il faut que tu croisses, et que moi, je diminue. En tous les cas, ce texte nous prouve, et ça c'est important, mes frères, que Dieu n'agira pas sans notre participation. Il faut que ça vienne de moi. Le propriétaire de la maison fait la démarche, il aperçoit un truc qui ne va pas, il ne sait pas si c'est grave, comme on le fait des fois pour notre corps. Oh, on a un petit bouton dans le dos, c'est quoi? Ben, je vais voir le docteur, ah, il vous faut faire un petit examen, ah non, c'était rien, c'est pas grave. Ben oui, on le fait pour le corps, en fait, il y a des gens pour le corps, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, vite, le docteur. Je ne suis pas contre, moi ça ne me gêne pas. Mais je pense que spirituellement, on devrait peut-être être aussi sérieux lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a une petite plaie. Tiens, avec ma femme, nous ne discutons plus. Tiens, nous ne prions plus ensemble. Ça fait un mois qu'on ne prie plus ensemble. On s'est fait piéger. Alors, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas grave parce que ce mois-là, il y a eu plein de choses à faire. Mais c'est peut-être grave parce que ça signifie qu'il n'y a plus de dialogue. Celui à qui appartient la maison ira voir le sacrificateur. Mes frères et sœurs, si nous voulons que ça se passe bien quand on passera devant Dieu, il faut que chacun nous prenions nos responsabilités. Chacun. C'est quelque chose de sérieux. Souvent on dit, ouais, c'est la faute. C'est vrai que des fois on n'a pas peut-être fait ce qu'il fallait pour les autres. Mais mes frères et sœurs, moi j'aime ces paroles de Jésus à la fin de chaque église, à celui qui vaincra. Chacun peut décider, parce qu'il écoute, parce qu'il est un véritable disciple, et parce qu'il a cette obéissance joyeuse, parce que souvent l'obéissance a été super mal expliquée, et c'est vrai que moi ça m'a peiné des fois de parler d'obéissance, peut-être d'une mauvaise manière. Mais celui à qui appartient la maison, verset 35, on le relit, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur. Vous êtes propriétaire de votre temple. C'est vous le propriétaire. Si vous avez un homme, c'est Dieu. Vous avez très bien compris ce que je dis. Vous êtes responsable de votre vie. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. Jésus a dit à cet homme, justement, qu'il a guéri au bout de 38 ans. Vous rappelez ce qu'il lui a dit quand il l'a retrouvé dans le temple? Vous rappelez? Va et ne pêche plus. Il le lui a dit, quelques jours après, il l'a rencontré dans le temple, le gars il avait fait ce qu'il fallait qu'il fasse, il était à sa place dans la maison de Dieu, et comme il était à sa place dans la maison de Dieu, le Seigneur Jésus a pu lui dire la parole pour qu'il se responsabilise. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Tu es responsable de la suite. C'est pas parce que Dieu nous a bénis qu'il faut faire les choses n'importe comment. Va et ne pêche plus. Je pourrais vous dire, consciencieusement ce matin, après ce culte, bien sûr qu'on va partager, communion fraternelle, etc. Et c'est important tout ça. Mais je pourrais, de la part du Seigneur, vous dire, cette semaine, prends quelques jours pour faire ce bilan que tu ne peux pas faire pendant le culte. Faites-le, si vous voulez. Qui est le responsable, au fait, on parle de notre propre vie, mais qui c'est le responsable de la famille? La Bible parle aux hommes, mes frères, sérieusement. Qui c'est le chef de famille? Pas le chef dans le sens militaire. Non, mais ça, moi je ne ris pas avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a tellement de foyers qui ont explosé. Et que si les hommes avaient été des vrais chefs, c'est-à-dire des vrais responsables, je crois qu'ils auraient certainement amener la bénédiction sur leur foyer. Le chef de famille. Qui est le chef de famille? La responsabilité. Tout à l'heure, je disais aux frères, aux sœurs, mais les frères, prenez vos enfants, demandez dans vos cultes personnels, Seigneur, j'aimerais que tu me touches par un verset qui me permettra d'être ce chef, ce responsable. Si le mot chef ne vous convient pas, bannissez-le et mettez un autre. Mettez responsable. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas à l'homme d'aimer sa femme et d'aimer ses enfants, de veiller sur eux, de s'occuper d'eux, de pourvoir. C'est écrit ou c'est pas écrit ça? Mes frères, l'argent que vous gagnez, vous l'utilisez que pour vous, pour vos petits plaisirs? Ou est-ce que c'est une joie pour vous d'élever vos enfants, d'acheter ce qu'il faut? Il y a des parents qui n'aident pas leurs femmes, leurs enfants, les papas. Moi, je crois qu'il faut apprendre à aimer, et à aimer de la bonne manière. Mes frères, vous êtes mariés, vous allez vous marier. Les jeunes, vous allez vous marier, vous allez fonder un foyer. Est-ce que c'est une grâce? J'y reviens, oui. Mais nous sommes responsables. C'est bizarre comment le chrétien souvent a tendance à se déresponsabiliser au nom de l'immense souveraineté de Dieu. Nous sommes responsables. Dans le jardin d'Éden, Dieu a fait le... Il y a plein de chrétiens, mais je ne comprends pas. C'est Ève qui a pris le fruit et Dieu met la responsabilité sur l'homme. J'y comprends rien. Oui, mais Dieu avait demandé à l'homme de garder le jardin. Et l'animal des champs, le serpent, s'est retrouvé dans le jardin. Si l'homme avait fait son boulot, eh bien, le serpent ne serait pas rentré. Et là, on parle de jardin, là, je parle de maison. Mais mes frères et sœurs, nous devons veiller sur notre jardin. Nous devons veiller sur notre maison. C'est quelque chose de sérieux. Dans le couple, on doit veiller l'un sur l'autre. Dans sa vie personnelle, on doit veiller. Veille sur ton âme. Mais dans une église, on doit veiller les uns sur les autres. Est-ce que c'est important pour vous? Oui. Je veux veiller sur toi, mon frère. Je veux veiller sur toi, ma sœur. Et je prie pour toi. C'est important pour vous que je sois en bonne santé spirituelle? Ben, vous le savez très bien. Vous devez veiller sur ma santé, vous devez veiller, le frère le font et vous le faites, sur ma santé physique. Souvent, vous me dites, monsieur, vous pensez à vous reposer? Eh bien, je vous remercie parce que ça m'aide à le faire. On doit veiller les uns sur les autres. C'est ça, je m'aperçois de certaines choses. Oh ben non, j'en ai rien à cirer, moi, c'est pas mon problème. Vous avez envie de ressembler à Caïn qui s'est autorisé à dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui. Ben oui. Dans le couple, c'est une grâce de veiller l'un sur l'autre. Moi, je trouve que c'est une bénédiction. Quand une femme prend soin de son mari, qu'un mari prend soin de sa femme, qu'il y a toujours de la tendresse dans un couple au bout de plusieurs années, vous ne trouvez pas que c'est beau la tendresse? Moi, je trouve que c'est bien. La démarche, elle incombe à chacun. C'est à chacun de dire, tiens, quelle est ma place en tant qu'épouse? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je vais relire les textes. Hein. Tiens, en tant que mari, c'est vrai que je ne suis peut-être pas le meilleur mari, mais je vais demander de l'aide. Seigneur, je te demande de m'aider à être meilleur mari. Vous croyez que c'est le genre de prière que Dieu peut exaucer? Moi, je le crois. Il faut savoir, vous avez vu, c'est simple ce verset. Celui à qui appartiendra à la maison ira le déclarer au sacrificateur. Alors, le sacrificateur, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Le grand souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Il faut savoir s'approcher de lui et lui demander de l'aide. C'est vrai que dans ma maison, il y a des pierres qui ne vont pas bien. Je les ai cachées derrière l'armoire, mais ça ne va pas. Vous savez qu'on peut cacher des trucs. Je m'approcherai de toi, je te ferai connaître tous mes besoins. Seigneur, tu vois mon cœur. Vous avez rappelé le premier texte qu'on a lu? Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Et s'il demande de l'aide, eh bien, je le guérirai. Et s'il y a des chrétiens qui n'ont pas été guéris, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ça comme il faut. C'est pas compliqué. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Moi, je veux bien croire que Dieu nous éprouve, et c'est vrai que des fois, il y a des épreuves qui peuvent durer des années. Je le sais très bien. Mais c'est la volonté de Dieu que lorsqu'on est dans la souffrance, qu'on écoute Dieu. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ça veut dire qu'il écoute d'abord. Prier, c'est pas parler. C'est d'abord écouter. Alors, il nous faut être intelligent. Il nous faut être pratique, on n'a pas affaire qu'à Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer entre nous et Dieu, ça c'est vrai. C'est bien. Mais aller trouver le sacrificateur, ça signifie aussi que si Dieu a voulu des ministères dans l'Église, c'est pas pour rien. Oui ou non? C'est parce qu'il en faut. S'il y a des diacres, des pasteurs, des évêques, des anciens, des diaconesses, etc., etc., des ministères, des services, c'est pas pour rien, c'est que Dieu les a voulus. S'il n'en avait pas voulu, Dieu aurait dit, tout se réglera entre toi et moi. Oui ou non? Bien, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut savoir demander de l'aide. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Moi, l'onction d'huile ici, j'ai un petit malaise. Parce que souvent, on le fait à la dernière minute. Est-ce que je peux avoir l'onction d'huile? On fait l'onction d'huile. Bon, c'est un truc, ça, qu'on fait mal dans l'Église. Moi, il me semble que lorsqu'on est malade, on devrait d'abord appeler les anciens, avoir un entretien et dire, tiens, écoutez, voilà, je suis malade. Qu'il appelle les anciens, ça veut dire que la personne peut-être ne peut même pas se déplacer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a On ne peut pas faire les choses à la légère. Ce qui caractérise notre génération, c'est que tout est léger, tout est superficiel. Et les gens, ils sont contents. Il s'agit qu'ils aient chanté trois cantiques, que Dieu est bon, que tout va bien, au revoir et à dimanche. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça l'Église. Si Dieu a institué des anciens, des ministères, je ne parle pas que des hommes, il y a des sœurs qui sont capables d'aider. Une sœur qui a de l'âge peut aider une autre sœur plus jeune qui vient de se marier par rapport à la maternité, par rapport à la contraception, par rapport à des sujets qui sont importants. On devrait avoir cette grâce de pouvoir s'aider les uns les autres et faire des progrès, non pas pour « m'as-tu vu ?», mais des progrès pour pouvoir aider les autres, bien entendu. Si vous voulez régler tout seul, écoutez bien, parce qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a ici, c'est possible. Si vous voulez régler tout seul, faites-le. Mais ne vous plaignez pas si certaines choses vont de travers. Parce que je crois que Dieu nous a créés de sorte que nous soyons dépendants les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Ça, c'est la parole. Vous êtes le corps de Christ. Vous savez tout l'enseignement qui est lié à cet enseignement. Si vous voulez le faire tout seul, faites-le tout seul. Si vous voulez être isolé, c'est votre problème. Dieu ne vous poussera pas. Mais quand même, que c'est dommage. C'est beau quand un homme, une femme, a l'humilité de demander de l'aide aux autres. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Je traverse telle situation, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je l'ai souvent fait, je le fais encore, d'aller voir les anciens de l'Église. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Si cette humilité, parlons pas déjà de grands trucs, mais si cette humilité, elle existait déjà dans le couple, vous ne croyez pas? Si deux s'accordent, vous connaissez ce texte, bon, pas à l'Église, parce que deux, de suite, claque de chrétiens, c'est l'Église qui est représentée, c'est sûr que c'est extraordinaire, mais enfin, dans le couple déjà, vous ne croyez pas que ça serait intelligent de s'écouter l'un l'autre? J'ai pas le temps, il me saoule. Moi, j'ai déjà vu dans mon bureau, mais vous ne l'avez pas dit à votre femme, devant l'épouse. Ah non, moi, je dis rien à mon mari, il ne comprend rien. Moi, je trouve que déjà, la maison, elle est pas mal attaquée, là, quand on en est là. Ça devrait nous éveiller. Et si moi, en tant que propriétaire de ma maison, je me rends compte qu'il y a une pierre qui est plus qu'humidifiée, mais commençait déjà à être prise par les champignons, il serait peut-être bien que je demande de l'aide à Dieu, et puis peut-être un frère qui pourrait être capable de m'aider. L'humilité, déjà pour parler dans un couple. Vous aimez parler avec votre conjoint ? Il y a une règle, il y a une règle dans l'Église, dans le royaume de Dieu, c'est l'honnêteté. Être vrai et être sérieux. Pas se prendre au sérieux et se la jouer TTS, vous voyez, très très spirituel. Comme c'est le cas de certains qu'il faut des révélations partout. Mes frères et sœurs, cette honnêteté, cette simplicité, ce sérieux. Le but, vous l'avez lu, vous le relirez. Je sais que le Lévitique c'est compliqué. Mais là je vous le dissèque. Est-ce que nous pouvons, dans un premier temps, évaluer les problèmes d'une manière juste? Parce que moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, ou qui dramatisent, les chrétiens qui dramatisent les problèmes. Mais c'est grave, ton mari t'a pas à faire des fleurs pour la Saint-Valentin, mais c'est vachement grave. Tout ce que je vous dis, je l'ai entendu. Et moi, je peux vous dire que c'est grave. De faire un bilan et dire, voilà, qu'est-ce que c'est qui est juste? Qu'est-ce que c'est qui est juste? J'essaierai de penser à lui offrir des fleurs à la Saint-Valentin. Mais on peut minimiser les problèmes tout simplement parce qu'on a peur de la vérité, au fait. Humblement, est-ce que vous pourriez, dans votre cœur, répondre à cette question? Est-ce que pour vous, je parle, pour les autres, c'est clair, vous l'aimez. Mais est-ce que vous avez envie d'entendre la vérité? En ce qui vous concerne, si vous étiez paresseux, est-ce que vous accepteriez que le Seigneur, dans son amour, sans fausse culpabilité et bêtise, vous dise, mon fils, vraiment tu es paresseux. Et tu es en train de t'éloigner de moi à cause de la paresse. Il faut créer un climat d'amour. C'est clair qu'on ne peut pas faire ça dans un climat
de dureté, d'hostilité, de méfiance. C'est extraordinaire quand on a confiance l'un vis-à-vis de l'autre. C'est le top niveau dans une église. Lorsque nous nous faisons confiance mutuellement, ça c'est un bienfait. Franchement, moi je le vis avec le conseil, je le vis avec les prédicateurs. C'est un immense bienfait. J'en pleure de joie, réellement. On doit créer, ça se développe, un esprit de confiance, un esprit d'amour. Vous savez, sans l'amour, qu'est-ce qu'on est ? Rien. Un esprit de discrétion. Moi, c'est un sujet que j'ai dû développer, ça. Ma femme m'a beaucoup aidé à être plus discret. Et discret à la maison, discret à l'église. J'aperçois une plaie. Oui, je la vois. C'est sûr, si vous n'y voyez rien... Il y a des gens, ils s'en rendent compte quand la maison s'écroule. Et les gens nous le disent. Ben, ça fait 17 ans. 17 ans qu'avec mon mari, ça va mal. Bien sûr, on ne peut plus rien faire. Sinon, le miracle, par une profonde repentance, des deux côtés, qui amène à la restauration de la maison, parce que Dieu a pitié de toutes nos ruines. Que son nom soit béni. Mais il faut savoir, sérieusement, frère, il faut savoir si le problème est grave ou non. Il faut savoir. Vous avez vu au verset 48, il déclarera la maison pure, la plaie est guérie. Voilà, c'est non, c'est rien, t'inquiète pas. Moi je le vois ça, des chrétiens, des fois ils se culpabilisent pour un truc, mais tu sais pas que tu as été pardonné ? Tu sais pas que Dieu t'a pardonné ? Moi j'ai vu des chrétiens qui, 30 ans après leur conversion, se culpabilisaient de ce qu'ils avaient fait avant leur conversion. Combien de femmes j'ai vu souffrir 30 ans après de l'avortement ? Qu'elles avaient fait avant d'être chrétiennes. Elles n'arrivaient pas à se pardonner. Vous voyez, il faut savoir les choses, il faut les comprendre. Dieu pardonne, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, s'il y a une plaie, des fois, les gens, ou alors c'est à l'inverse, les gens, dès que ça ne va pas, ils divorcent. Il y a des gens, ils divorcent. Moi, j'ai vu des gens qui ont divorcé pour rien. Est-ce que vous me croyez ? Pour rien. Je sais qu'il y a des divorces qui sont justifiés par l'infidélité et des comportements qui ont poussé un des deux à fuir. Et ils ont bien fait, je le pense. Mais si nous savions nous tourner vers Dieu, que ce soit pour des problèmes personnels, que ce soit pour des problèmes du couple ou que ce soit pour les problèmes de l'Église, si nous savions d'un cœur simple revenir au calvaire, revenir à la croix, parce que laissez-moi vous dire que toutes les guérisons passent par la croix. Toutes. Alléluia. Toutes les victoires. Tout, c'est la croix. Pour beaucoup de chrétiens, la croix, c'était le début. À la conversion, c'était la porte. Non, non, non. La croix, c'est tous les jours. La victoire, elle est à la croix et au calvaire. Tous les jours. Si vous ne passez pas par la croix, ça ne passera pas. Le sacrificateur, au verset 36, il constate que quand même il y a des choses à voir. Regardez au verset 36. Alors, le sacrificateur, avant d'entrer pour examiner la plaie, ordonnera. Vous acceptez que Dieu vous donne des ordres ? Moi, je ne reçois d'ordre de personne. Eh bien, vous n'irez pas loin comme ça. Le Seigneur, s'il vous donne un ordre, ce n'est qu'une bénédiction. Si vous ne l'avez pas compris, c'est que il y a un problème au niveau de la nouvelle naissance. Tous les ordres de Dieu sont intelligents, tous. Il ordonnera qu'on vide la maison parce que dans une maison, il y a des meubles. Et derrière les meubles, il peut y avoir des pierres qui soient affectées. Et si on cache les choses, on ne pourra rien régler. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à quelqu'un ? Ben bien sûr, on peut cacher les problèmes. Vous connaissez le proverbe, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Verset 38, quand il sera à la porte. Tiens donc, quand il sera à la porte. Est-ce que le Seigneur... Ma question, je voudrais bien la poser. Est-ce que le Seigneur peut venir jusqu'à ta porte ? Vous comprenez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir peut-être une semaine, parce que là, il faut une semaine. Est-ce qu'on veille à la porte ? Parce qu'il en rentre des choses dans une maison par une porte, ça ne rentre pas à la porte. Il y a plein de choses dans notre vie qui rentrent par la porte de nos yeux, la porte de nos oreilles. Est-ce que Dieu pourrait dire à quelqu'un, avec beaucoup d'amour ce matin, comme il l'a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, domine sur lui, fais attention, fais très attention. Est-ce que tu n'as pas fait rentrer des choses dans ta maison que tu n'aurais jamais dû faire rentrer ? Ouais, mais tout le monde fait pareil. Oui. Est-ce que le Seigneur t'autorise à le faire ? Vous avez vu ce qu'il dit, il fera fermer la maison pendant 7 jours. Parce qu'il faut du temps parfois. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Est-ce que
nous sommes prêts à prendre du temps pour faire le point. Tout en ayant une vie normale, bien sûr, mais parce que parfois, pour arriver à la repentance, moi, je crois qu'il faut du temps. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas sûr que... Oui. Pour voir ce qui ne va pas, des fois, il faut du temps. Pour arriver à la source du problème et dire, mais où c'est? Vous vous rappelez quand le gars là, qui avait perdu son fer de hache dans la mare, dans la rivière, pardon. Le prophète lui a dit, mais où est-il tombé? Il aurait dû le sentir. Il aurait dû le sentir. Si vous avez déjà utilisé des haches, on le sent quand un outil se démanche, on le sent, bien avant. C'est très facile à sentir. Mais il n'a peut-être pas fait attention. Et c'est pour ça que parfois il faut du temps pour avoir cette foi peut-être même, qui guérit. Je veux retrouver cette foi. Est-ce que vous pouvez tous me dire, est-ce que nous pourrions tous dire, oh, mais moi j'ai une grande foi ce matin? Bien sûr que non. Est-ce qu'on a l'honnêteté de dire, mais ma foi, elle a besoin de grandir? Donc pour arriver peut-être de nouveau à la foi qui guérit, pour dire, mais cette pierre, elle est, c'est clair, c'est grave. C'est grave. Si la télé, c'est plus important que la parole de Dieu. Si le loisir est des choses saines, je ne parle pas des choses malsaines. Si le loisir est plus important que la parole de Dieu, le jardin, le bricolage, le sport, si toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises en soi devenaient plus importantes que la parole de Dieu, moi je crois que ça commence à être un problème. Il y a plein de choses qui ne sont pas mauvaises en soi, plein. Mais à partir du moment où elles étouffent la vie spirituelle, à partir du moment où elles nous empêchent de mettre Dieu en premier, ça devient un péché. Oh, monsieur Gau, c'est pas un péché, si. Quelque chose qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, sérieusement. Moi, mes enfants, à Noël, ils m'ont acheté un gros truc de peinture pour faire de la peinture à l'huile. J'aime la peinture à l'huile. Mais je ne l'ouvrirai même pas. Je le revendrai. Non, je le garderai. Pourquoi? Parce que je sais que même dans la prière, même dans la prédication, ça va m'affecter. Je le sais. Pourtant, ne me dites pas que c'est mal en soi que de faire de la peinture. Mais je le sais. Et je crois que le Saint-Esprit m'a prévenu. Pourtant, ça m'a touché quand ils me l'ont offert. Vous pouvez m'offrir autre chose. Mais franchement, quand ils m'ont offert ça, je sais qu'il ne me faut pas. Pourtant, ce n'est pas un péché que de faire de la peinture à l'huile. Mais je sais que ça affecterait ma communion avec Dieu. Je le sais. C'est pour ça qu'il faut du temps. Au bout de 7 jours, le sacrificateur, il revient. Si la plaie guérit, c'est bien. Non, c'était pas grave. Cet accrochage que j'ai eu avec mon épouse, ben, c'était pas grave, on s'est attrapé. C'est une bricole. C'est pas grave. Si il arrive que le problème n'est pas réglé, qu'est-ce qu'il est dit au verset 40? Ôtez les pierres attaquées de la plaie. Ôtez les pierres attaquées de la plaie. Vous l'avez le verset 40? Il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses, il faut s'en séparer. C'est ça que ça veut dire. Il est remplacé par autre chose. Si quelque chose devient une passion, moi je suis pour tout ça. Moi ça ne me gêne pas, la télé, internet, tout ça, le Facebook et tout. Mais si ça devient une passion, il y a un frère qui me disait l'autre jour, moi je suis capable de rester jusqu'à 1h du matin sur mon téléphone, et ça m'empêche de faire le culte. Mais peut-être qu'il faudrait que vous mettiez le téléphone dans le bureau et que vous achetiez un réveil. Je ne pense pas qu'il y a du mal à faire certaines choses. Enfin, je ne sais pas moi, je ne vois pas le mal partout. Mais si ça me détourne de l'appel, si ça me détourne du service, si ça me détourne de l'écoute de la parole de Dieu, si ça m'empêche de faire valoir un talent que le Seigneur m'aurait confié, eh bien, c'est une pierre attaquée de la lèpre. Et je dois la remplacer. Et il faut sortir ça de la maison. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé en disant, il faudra peut-être quelques jours pour dire, mais non, mais ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien, ça va pas, ça me prend trop de place. Je me rends compte que je ne le prie pas comme je devrais prier, parce que telle activité prend trop de place. Alors, réglez-le. J'avais oublié au fait de vous dire et d'éteindre les portables. Mais s'il y a une plaie, ça peut être une plaie pour toi, une plaie pour ton foyer,
une plaie pour ton couple, une plaie pour l'Église. Il faut que je sache si dans ma vie de chrétien, je crée des problèmes aux autres. Je pense, mes frères et sœurs, et je termine avant qu'on prie. Je pense que nous sommes responsables et que nous n'avons pas le droit de détruire notre vie. Nous sommes responsables, nous n'avons pas le droit de détruire notre famille. Nous n'avons pas le droit de détruire notre couple. Nous n'avons pas le droit de détruire l'Église. Nous devons ôter les pierres. Cette pierre, elle ne va pas. Je ne vais pas reconstruire toute la maison, mais ça ne va pas. Eh bien, Dieu nous aidera. Veux-tu être guéri? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux quelques instants? Sérieusement, frères et sœurs. Nous avons ces textes plus utiles les uns que les autres. C'est vrai que ce sont des textes que parfois on lit vite, mais moi je ne veux pas faire à la légère les choses. Nous sommes l'Église, Dieu nous a fait grâce de faire de nous des sacrificateurs, des enfants de Dieu. Le Dieu du ciel est devenu notre Père. Mes frères et sœurs, vous ne croyez pas qu'avec un Dieu comme le nôtre, avec un Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul connaît ton cœur, tu ne crois pas qu'on pourrait être guéri? Tous, 7 jours, peut-être ça prendra 4 jours, peut-être ça prendra 10 jours, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend Dieu? Si tu entends ma voix, mon frère, je le répète, le seul moyen de l'Église, de Dieu, c'est l'Église, par la puissance du Saint-Esprit. Des vainqueurs, des disciples, qui le deviennent parce qu'ils écoutent. Et si une activité, une passion, si quelque chose t'empêche, ôte ces choses de ta maison. N'importe quelle activité, si elle t'empêche d'être l'homme, la femme que Dieu veut que tu sois, ôte-les de ta maison. Je ne veux pas traiter à la légère la plaie du peuple de Dieu. Demandons-lui de l'aide. Demandons-lui de l'aide que toute cette semaine, malgré les activités multiples qui nous accaparent, que toute cette semaine, nous ayons cette intelligence d'être responsables. Et je suis convaincu que Dieu nous aidera à faire une belle expérience avec lui. Nous te bénissons, notre Père. Nous croyons, oui, que tu as laissé dans ta parole tout ce dont nous avions besoin pour devenir des disciples et des vainqueurs. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons traité à la légère les plaies cachées derrière les meubles. Nous voulons, Seigneur, expérimenter encore que tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu l'as dit que pour ceux qui craindraient ton nom, se lèverait le soleil de la justice et que la guérison serait sous ses ailes. Augmente dans nos cœurs la crainte respectueuse de ta parole, afin que nous expérimentions vraiment que tu n'es pas que le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui guérit. Merci d'être notre souverain sacrificateur, ce Dieu qui peut entrer, passer par la porte et nous aider à faire sortir ces pierres, à nous faire rentrer les autres. Oui, Seigneur, que notre maison soit belle. Quand nous pensons à celle que tu nous prépares dans le ciel, nous voudrions qu'ici-bas, Seigneur, notre temple à chacun te glorifie. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.